بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد. إخوة الإيمان، إن شاء الله dans cet enregistrement nous allons revenir sur une question qui a agité la toile il y a quelques semaines. Question concernant le fait de souhaiter joyeux Noël ou alors bonne fête aux mécréants lors de leurs fêtes respectives. Et pendant cette semaine, j'avais reçu une vidéo d'une personne qui m'est chère qui voulait que j'essaie d'apporter des clarifications par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo. Et dans la vidéo, on pouvait voir un conférencier qui soutenait l'avis selon lequel il est permis en islam de souhaiter bonne fête aux mécréants pendant leur fête. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons revenir sur les arguments évoqués par le frère et apporter des clarifications. Et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde de l'accommodement dans ces clarifications. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Donc, frère Mustapha, tu vas nous rappeler les arguments évoqués par le frère. C'est quoi le premier argument? Ou alors, ce par quoi il a commencé?
Je vais commencer par souligner la divergence qu'il y a à ce sujet.
Non.
Relevant par cela un avis du chef de l'Islam, le Salim Mahmoudullah, qui a dit au fait que cela était interdit.
Non.
Suite à quoi il soulève qu'il y a aussi des avis qui
contredisent cet avis.
C'était théorie du chef, notamment celui du Conseil européen de la Fatwa, qui soutient le fait que cela est permis tant que l'on ne pouvait pas cela dans le.
Tant qu'on éprouve, non. Barakallahu fik. Donc c'est ça le premier point évoqué par le dit conférencier dans la vidéo. Et déjà, le premier problème, c'est que dans sa parole, il a dit que Ibn al-Qayyim rahimahullah a mené une réflexion. Et cette parole sous-entend que c'est une question qui relève de de l'effort intellectuel. Donc, à l'entendre parler, c'est une question qui relève de l'effort intellectuel. Et vous savez que les questions relatives à l'effort intellectuel, la divergence dans les questions relatives aux questions, ou alors la divergence dans les questions qui relèvent de l'effort intellectuel est permise. Or, en réalité, quand on retourne à la source et à la parole d'Ibn al-Qayyim, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a parlé du consensus. Et quand il y a consensus sur un sujet, il n'appartient pas à ceux qui viennent après ce consensus de contredire ce consensus. Islamiquement, le consensus ne se contredit pas. Quand un consensus a été établi, il n'appartient plus à ceux qui viennent après d'apporter un avis autre que celui du consensus. Et pour illustrer ce que nous avons dit, nous allons lire les propos d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, où il dit, ou alors les propos auxquels le frère il fait allusion. Dans son livre Ahkam al-Dhimma, les règles concernant Ahlu al-Dhimma, il dit, est considéré comme interdit le fait de féliciter les mécréants à l'occasion de leur fête distinctive, selon l'avis de l'unanimité des savants. Par exemple, leur souhaiter les meilleurs vœux pour leur fête ou leur carême, en disant « Je te souhaite une joyeuse fête » ou « Vos meilleurs vœux pour cette fête » et ainsi de suite. Ceci Même si la personne, en disant cela, n'est pas tombée dans la mécréance, elle est tout du moins tombée dans ce qui est interdit. Cet acte est semblable au fait de féliciter une personne qui se prosterne face à la croix. Plus encore, cet acte est plus grave aux yeux d'Allah et plus détesté par celui et plus détesté par lui que de féliciter la personne qui boit de l'alcool, qui tue une personne ou qui fornique, etc. Beaucoup de personnes ignorantes en religion tombent dans ce genre de transgression sans pour autant se rendre compte de la répugnance de leur acte. Celui qui félicite une personne pour un péché, une innovation ou pour une mécréance s'expose à l'abomination et au mécontentement d'Allah. Fin de citation d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui accorde miséricorde. Quand vous entendez cette parole, est-ce que ça ressemble à ce que ce frère a voulu faire comprendre ou alors a laissé sous-entendre dans sa façon de parler de l'avis d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Déjà, Ibn al-Qayyim n'a pas parlé de son avis. Il a parlé d'un avis qui fait le consensus. Et l'analyse exposée par Ibn al-Qayyim à travers ses propos est une analyse saine. Aucun musulman ne saurait s'opposer à une telle analyse, parce que c'est une analyse saine et claire. Yahri, pour nous, je veux dire islamiquement, que représente les fêtes mécréantes, les fêtes de mécréants? Parlons de Noël. Pour nous, Noël est un bien ou un mal? Répondez. C'est un mal. Comment est-ce qu'on peut féliciter quelqu'un pour un mal? Islamiquement, Noël, c'est un munkar. Min a'zam al-munkarat. Ça fait partie des grands mal, des grands maux. Noël fait partie des grands maux. Comment est-ce qu'on peut féliciter des gens qui fêtent Noël, alors que pour nous, Noël fait partie des grands maux? Alors que islamiquement, nous avons l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Si on ne peut pas empêcher les mécréants de fêter parce qu'on n'a pas la possibilité, non, comment est-ce qu'on doit les encourager? Comment est-ce qu'on doit leur souhaiter bonne fête? Donc, en fait, c'est pour ça que Ibn al-Qayyim a parlé du consensus. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ifmi wa al-udwan » pour, mutuellement, dans la bonté et dans la piété, et ne vous entraidez pas, ne vous enjoignez pas dans le péché et dans la turpitude. Pour nous, que représente Noël? La turpitude, le péché. Ne parlons même pas de la base, parce que même les chrétiens divergent sur la base de Noël. Non? Ils n'ont pas les mêmes conceptions sur Jésus. Même si on sait qu'il y en a qui croient que c'est le Fils de Dieu, il y en a qui croient que c'est le Père en même temps, c'est le Fils en même temps. Allez, c'est Kabbalik. On n'entre pas dans tout ça. Juste, que représente Noël pour nous? Et selon l'approche de ce conférencier, il est permis aux musulmans de souhaiter... Vous savez qu'aujourd'hui, les homosexuels ont leur fête. Vous le savez, non? Selon l'approche de l'auteur, il est permis aux musulmans de leur souhaiter bonne fête. Allez, c'est Kabbalik. Parce que pour eux, ça, c'est l'humanisme, c'est... Yahi. Il faut faire attention à ces mots que ces gens nous ramènent pour essayer de passer pour essayer de faire passer des choses interdites, et ce de façon claire. Donc, déjà, sa façon de parler de la vie d'Ibn al-Qayyim n'est pas sérieuse, parce qu'il aurait dû évoquer ce consensus. Et peut-être, wallahu a'lam, qu'il n'a pas évoqué le consensus parce qu'il voulait ramener des avis qui contredisent le consensus. Parce que en réalité, si une personne fait ça, il se contredit. C'est-à-dire, si tu parles d'une question où il y a consensus et tu ramènes des avis qui contredisent le consensus, tu te contredis. Et c'est également une façon d'exposer son ignorance. Parce que le consensus, ça ne se contredit pas lorsqu'il est établi. Les textes soutiennent ce consensus. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas le péché. Comment est-ce que nous pouvons féliciter des gens qui pour nous sont en train de pécher? Je ne sais pas si vous comprenez. Deuxièmement, pour nous ramener la vie, un autre avis, il nous ramène la vie du Conseil européen de la fatwa. Mais c'est quoi ce conseil? Il faut déjà qu'on étudie la crédibilité de ce conseil. C'est un conseil crédible. Est-ce que ce sont des gens qui ont ce droit, je dis le droit de se prononcer en religion, de délivrer des fatwas, surtout sur ce genre de sujet? Donc c'est absurde qu'on parle, qu'on ramène la parole d'un ancien et d'un savant comme Ibn al-Qayyim, qui est une montagne parmi les montagnes de la science de l'islam, qui a ramené un consensus et qui, jusqu'à preuve du contraire, reste un consensus. C'est absurde de ramener sa parole et ce consensus et ensuite contredit ce consensus avec l'avis d'un comité qui a lui-même besoin de conseils. Donc, voilà le premier ta'liq que nous pouvons faire. Et pour enchérir, je vais lire une parole de Cheikh Othaymine Rahimahullah qui dit: les félicités revient à approuver leurs actes. C'est ça en réalité, féliciter les mécréants à l'occasion de leurs fêtes respectives, en réalité revient à approuver leurs actes. Mais les gens ont généralement tendance à confondre les choses. Ici, quand on dit que les félicités revient à approuver leurs actes, est-ce que ça veut forcément dire que celui qui le fait a l'intention d'approuver leurs actes? Ce que l'on fait est une chose et ce dont on a l'intention de faire en est une autre. On peut faire quelque chose sans avoir l'intention, mais le fait qu'on n'a pas l'intention de faire cette chose, non, ne transforme pas l'acte. Fahimtum? C'est comme aujourd'hui des personnes qui assistent aux assises d'innovation, des innovateurs. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des assises de ceux qui prennent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à raillerie, il a ordonné qu'on s'écarte de ces assises. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: innakum idhan mithluhum. Si vous ne vous comportez pas de cette façon, vous êtes comme eux. Mais est-ce que ça veut dire qu'automatiquement la personne a l'intention d'être comme les mécréants, ces personnes qui prennent en raillerie les versets d'Allah? Mais le fait qu'il n'a pas l'intention, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas comme eux dans le jugement? Allah subhanahu wa ta'ala a jugé. Donc c'est ça qui a C'est dans ce point que parfois les gens s'embrouillent. Féliciter les mécréants d'après la charia, c'est approuver leurs actes. C'est ça la réalité dans la charia. Même si ces gens-là n'ont pas l'intention d'approuver l'acte, parce que s'ils le font avec l'intention, ils tombent dans la mécréance. S'ils le font avec l'intention d'approuver la mécréance, de valider la mécréance, de valider le péché, c'est grave. Voilà pourquoi Cheikh Oufaymine dit, rahimahullah, féliciter les mécréants à l'occasion de leur fête religieuse est compté parmi les interdictions. Cet acte a atteint un degré tel comme l'a décrit Ibn al-Qayyim, car les féliciter revient à approuver leur rite de mécréance et à agréer ce qu'ils font. Même si le musulman n'agrée pas cela pour lui-même. Fahimtum? Il y a cette différence. Même si le musulman, au fond de lui-même, n'agrée pas cela pour lui-même. Mais le fait qu'il les félicite, c'est agréer leur acte. Cependant, il est interdit aux musulmans d'agréer les rites des mécréants ou de congratuler à cette occasion une autre personne, car Allah n'agrée pas cela. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Dans la tradition rapprochée de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Cependant, il n'agrée pas de ses serviteurs la mécréance. Comment tu peux féliciter des gens pour une chose qu'Allah n'agrée pas? Alors que pour toi, tu crois qu'Allah n'agrée pas et tu crois que c'est le mal. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Wa qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme ma religion. La seule religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion de l'islam. Donc, les fêtes pour lesquelles nous pouvons féliciter les gens, ce sont les fêtes qui font partie de l'islam, parce que ce sont les seules fêtes agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh a dit, souhaiter les meilleurs vœux aux mécréants à l'occasion de leur fête est interdit, qu'il s'agisse de collègues de travail ou pas. S'ils nous souhaitent les meilleurs vœux à l'occasion de leur fête, nous ne devons pas leur répondre, car ce n'est pas notre fête et ce genre de fête n'est pas agréé par Allah. En effet, celles-ci sont soit des innovations au sein même de leur religion. Yani, est-ce que Jésus lui-même avait fêté sa naissance? Est-ce que dans le christianisme, c'est une fête légiférée? Dans le christianisme de base, est-ce que c'était une fête légiférée? C'est une innovation, même dans le fait. Voilà pourquoi les chrétiens orthodoxes ne fêtent pas. Ne fêtent pas ces fêtes. Donc, il dit, celles-ci sont soit des innovations au sein même de leur religion, ou sont soit légiférées au sein de leur religion, mais sont désormais abrogées par l'islam, qui est la religion qui fut envoyée à Mohammed, prier et salut sur lui pour toutes les créatures. Allah glorifié et exalté, dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui désire une autre religion que l'islam, Allah n'agréera point cela de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. أليس هذا واضح يا شباب أليس هذا واضحا. Ça c'est clair. بارك الله فيكم. Passons au deuxième argument. Il dit que c'est du civisme et de l'humanisme. Ici, j'aimerais attirer l'attention sur un point important. Tous ces mots-là, du civisme, l'humanisme et tout, nous ne les acceptons que lorsqu'ils prennent la connotation que l'islam leur a donné. Lorsqu'ils prennent une connotation autre que celle qui a été donnée par l'islam, nous ne les validons pas. L'humanisme pour nous, c'est se comporter avec bienséance. Se mettre chaque chose à sa place. Se mettre chaque personne à la place qui est la sienne selon les textes du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'humanisme pour nous, c'est se comporter envers nos semblables parmi les hommes selon les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, dans la nouvelle connotation de l'humanisme, il faut accepter l'homosexualité, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce que le musulman doit accepter cet humanisme-là? Non? Aujourd'hui, au nom de l'humanisme, il faut mettre fin à la charia. Iqamat al-hudud. Non, aujourd'hui, au nom de l'humanisme, il faut mettre fin à l'application de la charia. Est-ce qu'on va valider cet humanisme? Ça n'a pas de sens. Les musulmans doivent faire attention. Ya ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran comme étant une guidée pour le croyant. C'est pour ça que lorsqu'on se détourne des enseignements de la révélation, on est voué à une vie stérile ici-bas ainsi que dans l'au-delà. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ. Quiconque se détourne de mon rappel, il aura une vie stérile. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, c'est pour que nous suivons les enseignements du Coran. Parce que personne ne maîtrise la création que le créature. Personne ne maîtrise les créatures que le créateur. Donc les enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés à travers le Coran, à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont ce dont nous avons besoin pour mener une vie parfaite, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Donc il faut faire attention à ces jeux de mots. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous en préserve. Naam. Ça, c'est jouer avec les mots. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Si le problème, c'est au niveau de souhaiter joyeux Noël, qu'on dise bonne fête. Mais ça renvoie à la même chose. On parle de la même fête, la fête de Noël. Bonne fête. C'est la même chose. Et lorsque les savants ont traité cette question, ils n'ont pas fait de différence entre joyeux Noël. Vous avez entendu, vous avez suivi la parole d'Ibn al-Qayyim. C'est souhaiter bonne fête aux mécréants à leurs fêtes respectives. Et c'est interdit à l'unanimité. Parce que c'est une forme de participation, d'encouragement. Barakallahu fikum. Naam. Non, et là c'est le mélange que le frère il a fait. Ça fait partie du droit du voisin. Regarde par exemple, le droit du voisin, qui a enseigné le droit du voisin? C'est Allah. À travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, même dans le Coran. Donc, ce droit du voisin ne peut pas, d'après les enseignements du Coran, contredire certains principes de l'islam. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredit pas, la révélation ne se contredit pas. وَلَوْ كَانَ مِنْ إِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si la révélation provenait d'un autre en dehors d'Allah, elle devait être pleine de contradictions. Mais elle s'accorde. Les textes de la révélation s'accordent. C'est Allah qui nous a enseigné les droits du voisin. Et le prophète Muhammad sallam nous a enseigné les droits du voisin. Mais cela ne veut pas dire que nous devons encourager le voisin dans le faux. Lui souhaiter bonne fête. Et quand on parle, lorsqu'il lui arrivait un événement heureux, c'est un événement heureux qui ne, qui ne, qui ne, qui ne contredit pas l'islam, qui n'enfreint pas les principes de l'islam. Par exemple, à l'occasion d'une naissance, d'un mariage, ce sont des choses qui n'enfreignent pas l'islam. Barakallahu fik, naam. Naam, barakallahu fik. Naam. L'histoire des chrétiens de Najran. Et ça, c'est une grosse ambiguïté qui, en réalité, ne repose sur rien. Déjà, ils se sont basés sur ce hadith et sur cette histoire pour organiser ce qu'ils appellent les journées portes ouvertes en Europe. Ils ouvrent les portes aux mécréants, les portes des mosquées aux mécréants qui viennent visiter les mosquées et tout. Voilà. يعني مخالف للأدلة ومخالف للعقل. Et nous allons l'expliquer. Et en réalité, cette attitude ressemble aux attitudes et aux agissements des gens de l'innovation qui prennent une partie du texte et délaissent une autre partie. Généralement, ils prennent la partie qui peut prêter à équivoque et celle à travers laquelle ils peuvent soutenir leur passion et délaisser les parties claires, comme nous allons expliquer. Taïb. Au 9e année de la Hijra, il y a eu beaucoup de tribus, des groupes qui sont venus à Médine rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des clans, des groupes. Et la majorité de ces groupes exprimaient leur envie d'embrasser l'islam et voulaient être imprégnés de l'islam. Ils voulaient connaître l'islam, mieux se renseigner pour pouvoir embrasser l'islam. Ils se sont déplacés, ils sont partis des contrées lointaines. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient mieux connaître l'islam. Parce qu'ils voulaient, c'est des gens qui s'intéressaient à l'islam. Je ne sais pas si vous comprenez le contexte. Donc, et parmi ces groupes, il y avait le groupe de Najran. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de leur rencontre avec le prophète sallam a été rapportée par dans plusieurs ouvrages, que ce soit les ouvrages dans le hadith et dans la sira. Vous comprenez? Mais seulement c'est la seule personne qui a fait mention de la prière de l'adoration parce que le wafd de Najran, c'était des chrétiens. La seule personne qui a fait mention de leur prière dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibn Ishaq. C'est-à-dire, c'est sa chaîne de transmission, c'est sa version de cette histoire, c'est dans sa version de cette histoire qu'il a été mentionné que ces gens-là, le prophète sallam, leur avait permis Dieu de prier dans sa mosquée, parce qu'il a été dit que il dit Naam, il dit حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر. Il parle de وفد النجران, ce groupe de chrétiens. Il dit qu'ils sont venus à Médine et ils sont entrés à Médine quand le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم avait effectué la prière de عصر. الحبرات جببا وأرضية في جمال أو في جمال رجال بني الحارث ابن كعب قال يقول بعد ما رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى إتفوزي leur aspect apparent lorsqu'ils sont arrivés. Ensuite, il a dit, certains parmi les compagnons du prophète qui les avaient vus disaient, « Ma ra'ina ba'dahum wafdan mislahum. » Nous n'avons pas vu après eux un groupe de personnes qui étaient comme eux. « Wa kad hanat salatuhum. » « Faqamu fi masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yusalloun. » L'heure de leur prière était arrivée et ils se sont levés pour prier dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala rasul sallam da'ouhum, et le prophète a dit à ses compagnons, laissez-les. Fasallu ila al-mashriq, et ils ont prié en direction de al-mashriq. Naam. Comment on va? Naam. Taïf. Maintenant, yani l'opposé de la qibla des musulmans. Taïf. Maintenant, voilà. Parmi les choses qu'il faut retenir ici, c'est que c'est des personnes qui viennent pour s'imprégner de l'islam. Et avant eux, le prophète Mohammed sallam avait accueilli certains groupes qui ont embrassé l'islam. Donc, dans cette situation, le prophète Mohammed sallam, qu'est-ce qu'il visait? Leur islamisation, il espérait qu'après avoir exposé la vérité à ces derniers, ils pouvaient embrasser l'islam. Maintenant, ils se sont levés pour prier. Le prophète était face à ces deux situations, à ces deux mots. Parce que les laisser prier dans la mosquée du prophète sallam était mal. Laisser les gens adorer, pratiquer une autre religion que celle de l'islam, en réalité était mal. Mais les réprimander et leur empêcher de prier pouvait engendrer un autre mal, qui est celui de mettre une barrière entre eux et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens, ils viennent d'arriver. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore engagé le dialogue avec eux. Et il espère qu'après avoir exposé la vérité, ils peuvent aussi s'islamiser. Donc, il y avait cet autre mal qui était plus grand que le premier mal, celui de leur fermer la porte d'accès à l'islam. Alors le prophète sallam, comme les règles des charia l'ont établi, il a opté de les laisser prier pour ce grand bien qu'il espère. Est-ce que vous avez compris? Donc, le contexte, il est clair. Mais regardez, pour bien comprendre, il faut revenir à la version de Abu Nu'aym al-Asbahani, qui a rapporté cette même histoire par sa chaîne de transmission d'après Ibn Abbas. Qala anna wafda najran min al-nasara qadimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum 14 rajulan min ashrafihim. Que le groupe des gens de Najran était venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient au nombre de 14. En plus, ensuite, il a parlé min ashrafim, ils étaient au nombre de 14. Et ces 14 personnes faisaient parmi des nobles, parmi les gens de Najran. C'était les gens qu'ils avaient sélectionnés. Ensuite, ils avaient sélectionné ceux qui devaient parler directement, qui devaient échanger directement avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont engagé la conversation avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lahuma. Le prophète a donc dit aux deux qui étaient des porte-parole, aslima, islamisez-vous, embrassez l'islam. Qala, ils ont dit qad aslamna. Nous sommes déjà islamisés. Non? Nous sommes déjà islamisés. Nous sommes déjà soumis à Allah. Parce que aslimu, embrassez l'islam, soumettez-vous à Allah. Ils ont dit nous sommes déjà soumis à Allah. Qala faqala ma aslamtuma. Le prophète leur a dit, vous ne vous êtes pas encore soumis à Allah. Quand ils font les portes ouvertes, c'est ce qu'ils font. C'est ce dialogue. Est-ce qu'ils le font clairement? aux mécréants qu'ils doivent embrasser l'islam, qu'ils doivent sortir des ténèbres du christianisme, de la mécréance vers la lumière de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال قد أسلمنا قال ما أسلمتما لبوفل ردي فنفذت أذن قسمي الله بلى قد أسلمنا قبلك إذن دي منه au contraire nous sommes déjà bien au contraire nous sommes déjà soumis à Allah avant toi bien avant toi le prophète leur a dit كذبتما كذبتما vous avez menti Mana'akuma min al-islam thalathun fikuma. Il y a trois choses qui vous empêchent et qui vous ont empêché d'être des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatukum as-salib. L'adoration que vous vouez à la croix. Wa aklukum al-khinzir. Et votre consommation du porc. Wa za'mukuma anna lillahi waladan. Et le fait que vous prétendez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un enfant. ونزل استنسك الورثي descendu ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم certes l'exemple d'Isa auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme l'exemple d'Adam خلقه من تراب Allah l'a créé par le biais de la poussière ثم قال له et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit كن فيكون. Il lui a dit soit et subitement il fut. Taïf. Je ne sais pas si vous comprenez la conversation et le dialogue entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses derniers. Falamma qara'aha alayhim. Lorsque le prophète leur a récité ces versets, qalu ma na'rifu ma taqul. Ils ont dit nous ne connaissons pas ce que tu dis. ونزل et en ce moment le verset est descendu un autre verset فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين le verset suivant est descendu À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu es bien informé, tu n'as qu'à dire. Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Puis, proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Antumai ya Shabab, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a exposé l'islam, leur a exposé ce qu'ils avaient comme mécréance et qu'ils ont refusé de se soumettre, da'ahum ila al-mubahala. Il leur a appelé à l'exécration. Yaqul, toujours dans la version de Abu Nu'aym, Yaqul, il dit, le prophète leur dit, نجتهد في الدعاء nous allons déployer l'effort dans l'invocation أن الذي جاء به محمد هو الحق dans cette invocation nous allons dire que certes ce qui a été rapporté par Muhammad c'est la vérité وهو العدل et c'est la justice وأن الذي تقولون هو الباطل et que ce que vous dites est faux وقال لهم أنزل البروفيل الرجي إن الله قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أباهي لكم. دي الله سبحانه وتعالى ما أردني كسي vous n'acceptez pas ceci que qu'on fasse l'exécration. Et vous avez suivi ce que l'exécration, c'est le fait de réunir les gens et d'appeler nos fils et les leurs, nos femmes et les leurs, nos propres personnes. Elle est l'heure, puis invoquer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les menteurs. Taïb, قالوا يا أبا القاسم, ils ont dit, oh أبا القاسم, بل نرجع فننظر في أمرنا. Nous ne sommes pas chauds, nous ne sommes pas prêts à l'exécration. Mais donne-nous le temps, nous allons rentrer consulter nos frères Et après, nous allons t'informer de ce que nous pensons, de ce que tu nous as dit. Ensuite, nous allons revenir vers toi. Et c'est ainsi qu'ils se sont retirés et qu'ils se sont consultés. Ils se sont concertés. وَتَصَادَقُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ Ils se sont dit les vérités entre eux. فَقَالَ السَّيِّدِ لِلْآقِبِ Et le Seyyid, il a dit au Aqib, قَدْ وَاللَّهِ عَلِمْتُمْ أَنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ Par Allah, vous avez su, comme moi, que l'homme est un messager qui a été envoyé. C'est un prophète qui a été envoyé. وَلَئِنْ لَعَنْتُمُوهُمْ إِنَّهُ لَاسْتِئْصَالُكُمْ Ici, vous faites l'exécration, alors instruction. وَمَا لَعَنَ قَوْمُ النَّبِيًّا قَطٌ فَبَقِيَ كَبِيرُهُمْ وَلَا نَبَتَ صَغِيرُهُمْ Et vous savez tous qu'il n'y a pas une seule personne qui a accepté yani, l'exécration et yani, avec le prophète et qu'une personne est restée dans cette communauté. Vous comprenez? Et qu'une personne est restée dans cette communauté. فَإِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَتَّبِعُوهُ وَأَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ Alors, si vous ne les suivez pas, et si vous n'acceptez que le fanatisme vis-à-vis de votre religion, فَوَادِعُوهُ وَرْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ Alors, dites-lui au revoir et rentrez tranquillement chez vous. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بنفر من أهله إلى بوفان سلام était sorti quand il a dit ça ce n'était pas le bruit le prophète était sorti avec quelques membres de sa famille فجاء عبد المسيح بابنه وابن أخيه وجاء رسول الله ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا دعوت فأمنوا أنتم فأبوا أن يلائنوا وصالهوه على الجزية فقالوا يا أبا القاسم نرجي إلى ديننا وندعك ودينك وابعث معنا رجلا من أصحابك يقضي بيننا ويكون عندنا عدلا فيما بين ويكون عندنا حكما فيما بيننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية أبعثوا معكم القوي الأمين فنظر حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال إذا ما هؤلاء القوم فاقضوا بينهم بالحق الله أكبر Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses membres de la avec les membres de sa famille et il a proclamé devant les gens que lorsque je vais invoquer Allah dites Amin les chrétiens ont dit que non prophète arrête S'il te plaît, nous ne voulons pas que cela se produise. Nous acceptons les principes de l'islam. Mais laisse-nous dans notre religion. Vous savez que l'islam, il y a des principes. Ceux qui veulent rester dans leur religion parmi les gens dirigeants, il y a des principes. Ils doivent payer ce qu'on appelle la jizya. Ils ont accepté de payer la jizya. Et ils ont demandé à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoie quelqu'un avec eux pour leur enseigner et qui sera jugé entre eux qui jugera avec le kitab et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le prophète leur a demandé de venir le soir et c'est ainsi qu'il a envoyé avec eux Abu Ubaida ibn Jarrah quand on suit cette histoire dans sa globalité est-ce que ça ressemble à ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre Ya Akhi, quand le prophète sallam leur a laissé prier, ils visaient quelque chose. Il leur a invité. Ils ont dit l'islam. Ils ont refusé. Est-ce qu'ils s'est tu? Déjà, il leur a exposé leur faux. Leur a fait comprendre la mécréance qu'ils ont. Soumada'ahum ila al-mubahala, lamma rafadu. Et lorsqu'ils ont refusé de se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète les a invités à l'exécration. Et ils ont refusé et ils ont accepté le principe de l'islam qui leur permet de rester dans leur religion. ceux qui font les journées portes ouvertes, c'est ce qu'ils font. Donc vous voyez que, comme nous avions dit, l'attitude de ce conférencier ressemble plus aux agissements des gens de l'innovation parce qu'il a pris, ils ont pris une partie d'un texte. Et rappelons que, par exemple, dans la version de Abu Nu'aym, qui est une version authentique, qui a été rapportée par des chaînes de transmission authentiques, ne mentionne pas la prière des Wafd de Najran dans la mosquée du Prophète sallam. Et la version d'Ibn Ishaq, où il est mentionné, a été rapportée par une chaîne de transmission faible, Mu'dal. Une chaîne de transmission Mu'dal. Pourquoi? Parce que Muhammad et Mu'dal fait partie des chaînes faibles. فمحمد ابن جعفر ابن الزبير يروي عن التابعين محمد ابن جعفر ابن الزبير كي a rapporté cette histoire non rapporte les récits des petits tabi'in. Vous comprenez, c'est qu'il n'a même pas, il ne rapporte même pas des grands tabi'in qui ont vécu avec les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il rapporte plutôt des petits tabi'in. وهم ممن عاصر صغارهم. Vous comprenez? Donc, lui, il rapporte des petits tabi'in. Et c'est lui qui nous rapporte cette histoire. C'est-à-dire qu'il ne rapporte même pas des compagnons. Il n'a même pas raccompagné des compagnons, mais il a rapporté des petits tabi'in. Donc, la chaîne de transmission est coupée. Vous voyez? Mais, nous disons que même s'il s'avérait que cette version soit authentique, le contexte est clair. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, avait dit « ليس لهم دخول المساجد سواء في المدينة أو غيرها » Il n'appartient pas aux mécréants d'entrer dans les mosquées, que ce soit à Médine ou en dehors de Médine. Ma lam yakun hunaka maslahatun rajiha. Sauf s'il y a une maslaha. Hein? Comment est-ce qu'on appelle le définition? Non, un intérêt. Sauf s'il y a un intérêt qu'on vise. Et qui est un intérêt probable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle al-maslaha al-muhuma, un intérêt illusoire. Il ne s'agit pas de ça ici, il s'agit d'un intérêt probable. Comme dans l'histoire du prophète sallam avec les groupes qui sont venus. Tu sais, il y a eu des groupes qui sont venus qui se sont effectivement islamisés lorsque le prophète leur a exposé la vérité. Donc là, l'intérêt était probable. C'est le prophète sallam avait espoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc s'il y a cette, si on se retrouve face à ce genre d'intérêt, فَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ مَصْلَحَ رَاجِحَةٌ s'il y a un intérêt probable, جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ qui leur permet qu'on laisse entrer les mécréants dans la mosquée, si c'est pour leur exposer la religion de l'islam, si on espère qu'ils peuvent embrasser l'islam, si on va profiter et leur exposer le faux qui existe dans leur dogme. كَمَا فِي قِصَّةِ نَصَارَ نَجْرَانِ ونزولهم في مسجده صلى الله عليه وسلم. Donc voilà les clarifications que nous avions pu apporter au propos du frère. Je crois que c'est fini, non? Quel il y a quoi encore? Voilà, ils disent qu'ils nous. Ça c'est ajib. Cette analyse, cette approche est ridicule. Non, vas-y. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, ma sha Allah. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, y a-t-il une autre récompense pour le bienfait qu'un autre bienfait? Donc il dit que, et il nous souhaite bonne fête. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas leur souhaiter bonne fête aussi? Mais c'est simple, Yahi, parce que notre fête est légiférée. Non? On accepte qu'ils nous souhaitent bonne fête parce que notre fête est légiférée. Et parce qu'il ne leur est pas interdit dans leur religion de nous souhaiter bonne fête. Alors que islamiquement, il est interdit de leur souhaiter bonne fête comme nous l'avons entendu. Et il y a consensus là-dessus, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a rapporté. Mais cette approche est ridicule. Pourquoi, Yahi? Parce que si on ouvre cette porte, on fonce tout droit dans le mur. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Yahi, est-ce que nous pouvons épouser les filles chrétiennes? Non? Islamiquement, est-ce que nous pouvons épouser les filles chrétiennes? Non! Taïb, est-ce que les filles musulmanes peuvent épouser les hommes chrétiens? Là, ça n'a pas de sens qu'on vienne poser la question ici. Pourquoi? Déjà parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est établi qu'Allah a interdit une chose, on ne pose pas des questions. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. On n'est interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il fait et sur ce qu'il fait. Mais c'est plutôt ses serviteurs qui seront interrogés. Islamiquement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu les filles chrétiennes licites. On peut les épouser. Et il a rendu les femmes croyantes, les filles musulmanes, illicites aux hommes mécréants. Selon l'approche de notre conférencier, ce n'est pas normal, d'après son approche, quoi. Yahi, hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan? Y a-t-il une autre récompense du bien qu'un autre bien, du bienfait, si ce n'est un autre bienfait? Il faut que ce soit le bien, Yahi. La récompense du bien ne peut être que le bien. Lorsqu'ils nous ont souhaité bonne fête, ils ont fait le bien. Allez, Sakazali. Islamiquement, c'est le bien qu'ils ont fait. Parce qu'ils nous ont encouragés sur quelque chose qui est légiféré à la base. Ils nous ont souhaité bonne fête pour des fêtes légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, pour des fêtes agréées par Allah. C'est un bien. Non? Très. Maintenant, pour répondre à ces biens, nous devons aussi répondre par un autre bienfait. Oh, leur souhaiter bien, leur souhaiter bonne fête n'est pas un bienfait. Ce n'est pas un bienfait. Parce que c'est interdit. C'est un péché. Les bienfaits, c'est se comporter comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset. لا ينهاكم الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقتسطين. Donc c'est ça le bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset dit: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Il faut être bienfaisant, c'est envers ces derniers, mais seulement cette bienfaisance doit être canalisée par les textes clés du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas enfreindre les principes de l'islam dans cette bienfaisance, sinon elle se transforme en malséance. Donc Allah ne vous défend pas d'être bienséant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cet argument. Non. 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 Et qui n'a rien à voir avec le sujet qu'il traite. Yahi, une nourriture préparée pour cette fête est une nourriture illicite. C'est une nourriture illicite parce qu'elle a été préparée pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. En guise de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ça qui fait la fête. Yani, c'est tout ça qui fait la fête. Les vœux, le partage des repas, c'est tout ça qui fait la fête. Yahri, finalement, vous avez rendu cette fête licite. Allez, c'est kazalik. C'est ce que veut dire leur approche. Leur approche, dans leur approche, finalement, ils ont rendu Noël licite. Parce que s'il est permis de souhaiter bonne fête, de partager les repas, Yahri, qu'est-ce qui reste? On attend juste que demain ils viennent nous dire qu'ils peuvent les accompagner à l'église, Yahri. Mahad al-Kalam. Ça n'a pas de sens. C'est une fête qui ne nous concerne pas ni de près ni de loin, qui représente pour nous un mal. Et nous devons de nous en écarter. Certains purs prédécesseurs ont expliqué le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ils ont dit que الزور هنا أعياد المشركين الكفار. Ils ont dit qu'Azur, ce sont les fêtes, ce sont ceux qui ne participent pas, qui n'assistent pas. Qui ne participent pas ni de près ni de loin aux fêtes des mécréants. Ça fait partie des explications du verset donné par les pieux prédécesseurs. Et c'est mentionné dans les livres de tafsir. Yahri. La nourriture, à la base, est licite. Mais, le contexte ou la cause de la préparation de cette nourriture peut la rendre illicite. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, c'est une nourriture qui a été préparée pour cette fête. Donc, ça fait partie, et tout ça, ça fait partie, c'est tout ça qui forme la fête. La fête, c'est les vœux. C'est la joie, c'est le partage des repas, c'est tout ça. Demander aux gens de manger, c'est leur demander de participer à la fête. Et c'est interdit. Et le hadith de Asma bint Abi Bakr, qui a été cité, n'a aucun rapport. Sa mère est arrivée alors que sa mère était mécréante. Il a demandé au prophète, est-ce que je dois accueillir ma mère? Le prophète lui dit, accueille ta mère. Prends soin de ta mère. L'islam ne t'interdit pas de t'occuper de ta mère. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et dans l'autre verset, il dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ أَلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِئِهُمَا. Le verset est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a décrété, certes ton Seigneur a décrété, que vous ne vous devez de n'adorer que lui et d'être bienveillant envers vos parents. Et s'il arrivait que l'un d'eux, ou alors s'il arrivait qu'il te demande de me croire, d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur obéis pas, mais reste bienfaisant envers eux pour ce qui est de ce bas monde, des choses relatives à ce bas monde. Donc la religion est dissociée des choses mondaines. Or Noël fait partie de la religion. Allez, c'est kadhalik. والله سبحانه وتعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. يا اخي avez votre religion à moi ma religion, c'est clair, même si c'est les parents. Mais pour ce qui est de ce bas monde, il y a pas de problème, ya akhi, on se comporte avec bienséance envers ses parents. On se montre bienfaisant envers ces derniers, même envers nos familles. Mais on ne mélange pas les choses. On dissocie la religion des choses relatives à ce bas monde. Et je crois que c'était la dernière ambiguïté. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.